Street test, Elizabeth Short.
Her name was Elizabeth Short. She was young and beautiful, determined to be famous, but destined to be infamous.
Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Hey, listen up.
Pardon?
No reporters view the body.
But nous avons affaire à un serial killer.
The victim has been cut in half. All organs removed.
A serial killer.
Blood drained from the body. And the mouth sliced ear to ear.
Un serial killer.
Et on travaille en série ce soir dans le rendez-vous sur France Culture. Il sera question de serial killer, d'enquête, de faits divers, de Michel Foucault, d'Agatha Christie, de Los Angeles, de James Ellroy et même de clown. Avec Didier Decoin qui publie son dictionnaire amoureux des faits divers, il avait déjà signé celui de la Bible. C'est un grand écart ? Non, il y a des correspondances. Benoît Lagane.
Et avec ce nouveau dictionnaire, Didier Decoin se raconte à travers les faits divers définis par Pierre Watine dans le cahier du journalisme comme le diesel de la profession.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Son sujet ce soir, la politesse. Et puis 19h35, plateau Serial Killer avec Stéphane Bourgoin qui signe la résolution de l'enquête du Dahlia Noir. Retour sur un meurtre historique de 1947 à Los Angeles. Un réservoir à fiction pour le cinéma et la littérature. Manu Farine.
500 pages et une enquête obsessionnelle menée en adoptant la position de l'armchair détective à la Sherlock Holmes.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagane que l'on ouvre d'abord avec le son du jour de Zoé Sfez.
They told me where to find you. Mickey. Forgive me.
No. Damn you. No more.
Mickey.
Peut-être que les auditeurs de France Culture, même eux, l'auront reconnu, cette scène kitschissime et inoubliable entre Richard Chamberlain et Rachel Ward dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Cette saga télévisuelle au succès interplanétaire qui mettait en scène l'amour impossible entre l'homme d'église Ralph de Bricassart et Maggie dans les grands espaces australiens fut d'abord, on l'oublie parfois, une saga littéraire. Et son auteur, Colin McCullough, vient de disparaître à l'âge de 77 ans chez elle, en Australie, pays qui, grâce à son œuvre, 25 romans en tout, connaîtra un regain d'intérêt dans les années 80.
Merci Zoé, on se retrouve lundi bien sûr pour la suite de ce Journal de la Culture, mais le vendredi, le Journal de la Culture, c'est aussi le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagane.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et pour commencer, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
En effet, comme chaque vendredi, je m'arrête sur l'actualité des séries télévisées. Et cette semaine, du côté des séries, c'est Lily, je vous raconte. Tout commence en 2003. Quand Lily Rush, inspectrice de la police criminelle de Philadelphie, ressort pour la première fois un dossier classé sans suite et se lance dans une série d'enquêtes sur des meurtres jamais élucidés commis entre les années 10 et les années 2000. Un véritable classique qui a fait les beaux jours de CBS, Canal+, France 2 jusqu'en 2010. 5 ans plus tard, le service public avec France 4 ressort Cold Case de ses cartons. Une rediffusion plutôt bienvenue.
Et pour quelle raison cette rediffusion est-elle bienvenue ?
Eh bien, pour y répondre, j'ai téléphoné à Marjolaine Boutet, maître de conférence à l'université de Picardie Jules Verne. Elle connaît très bien le sujet puisqu'elle est l'auteur d'un ouvrage intitulé Cold Case, la mélodie du passé, publié au PUF. Et pour elle, cette rediffusion est une très bonne nouvelle car elle n'est visible qu'à la télévision. Explication.
Surtout parce que c'est une série qui n'existe pas en DVD pour des questions de droits musicaux. Cold Case, c'est 156 épisodes qui comportent pas moins de 1004 tubes. Donc des tubes qui sont vraiment très importants dans l'histoire parce que ça met dans l'esprit d'une époque. Hein, donc Cold Case, ce sont des enquêtes qui se passent dans le passé. Et ce passé est illustré évidemment par des costumes, des décors, mais surtout par la musique de l'époque qui vous met immédiatement dans l'ambiance. Et le choix de ces tubes, évidemment, fait que en termes de droits musicaux, l'édition de Cold Case en DVD ferait qu'un coffret de série coûterait l'équivalent de 4, 5, 6 albums complets de musique. Et c'est bien sûr trop cher pour les éditeurs. Et donc la seule façon de voir et de revoir surtout Cold Case, c'est des diffusions à la télévision.
Alors au-delà du divertissement et du pur plaisir à voir ou revoir cette excellente série policière, j'ai demandé à l'historienne Marjolaine Boutet quelle vision de l'histoire de l'Amérique, eh bien Cold Case, dessinait. Élément de réponse.
On n'est pas du tout dans la grande histoire, on n'est pas dans les grands hommes, on est dans ce quotidien de nos parents, de nos grands-parents, parfois de nos frères, de nos sœurs et de nos oncles, qui ont lutté pour une société plus tolérante, plus juste. C'est une histoire qui est une histoire finalement très intime, très personnelle. Ça parle essentiellement de relations familiales, mais ça parle aussi de la difficulté d'être accepté tel que l'on est vraiment. Donc la difficulté pour les femmes d'arriver à une certaine égalité avec les hommes, mais aussi bien sûr, vous avez des épisodes déchirants sur la lutte des Noirs pour l'égalité des droits, la lutte des homosexuels pour être reconnus et ne plus avoir à se cacher. C'est une série qui a été diffusée sur la chaîne CBS aux États-Unis, qui est une chaîne plutôt conservatrice, mais c'est une série profondément démocrate parce qu'elle interroge le rôle des États-Unis et de l'armée américaine dans les guerres qu'elle a menées. Le retour de l'ultralibéralisme dans le monde du travail depuis les années 80, avec les effets de la mondialisation, les manques du système de santé américain. Enfin, vraiment, elle se permet une critique assez forte, hein, sur une grande chaîne à une heure de très grande écoute, du système américain depuis quelques années.
Et si cette série, donc Cold Case, était bien plus qu'une série policière ?
Eh bien, ce que défend Marjolaine Boutet, c'est que cette série serait avant tout une série sur le métier d'historien, explication.
Alors, Cold Case, c'est vraiment la seule série qui met en scène la méthode de recherche de l'historien. Bon, ici dans le cadre d'une série policière, mais Lily Rush, donc l'héroïne et ses collègues, emploient vraiment les méthodes de l'historien pour résoudre des crimes qui ont lieu dans le passé, c'est-à-dire qu'ils réouvrent des boîtes d'archives et qu'ils ensuite interrogent ces sources du passé et puis souvent vont réinterroger les témoins avec leur regard d'aujourd'hui pour mieux comprendre ce qui s'est passé à une époque donnée et pour faire surgir la vérité. Et en ça, je trouve que c'est une très très belle illustration du métier d'historien et pas seulement du métier de flic.
Alors notez que pour vous faire une idée, Cold Case, donc, c'est tous les jeudis sur France 4.
Peut-être que Didier Decoin et Stéphane Bourgoin, vous connaissez cette série ?
J'étais complètement fan de Lily Rush, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que l'héroïne, elle est ravissante, intelligente, fouineuse, tenace, ou maligne comme un petit singe, et elle est très très jolie.
Ça, c'était donc Didier Decoin, Stéphane Bourgoin.
Oui, mais ça compte, mais bien sûr, quand ça compte. Série.
C'est pour ça que je regardais Ally McBeal, moi, donc.
Moi, je suis un peu moins ravissant qu'elle, mais j'ai fait un peu le même métier qu'elle dans mon livre,
exactement,
Le Dahlia Noir.
Quand on a parlé tout à l'heure, qui a tué le Dahlia Noir, en effet, l'énigme enfin résolue. Et pour prolonger ce supplément, eh bien, pas de revue d'actualité, mais exceptionnellement, retour sur le palmarès du FIPA, le Festival International des Programmes Audiovisuels de Biarritz.
En effet, le week-end dernier avait lieu à Biarritz la remise des prix du 28e FIPA, dont vous êtes le président Didier Decoin, et je profite de votre passage donc pour m'arrêter un instant sur quelques-uns des prix attribués.
Et dans la catégorie fiction, le FIPA d'or est merveilleux.
En effet, c'est un téléfilm britannique adapté d'une histoire vraie, Marvelous, de Julian Farino, qui a reçu le FIPA d'or de la meilleure fiction et le prix du meilleur acteur masculin pour Toby Jones. Marvelous raconte en deux mots, je cite, « la vie extraordinaire de Neil, un être un peu simple dont la candeur sans limite va lui permettre de franchir tous les obstacles au point de se faire embaucher auprès de l'entraîneur de l'équipe de foot de Manchester United afin de remonter le moral des joueurs. »
C'est pas un film, c'est un médicament.
Très bien. Et dans la catégorie documentaire, c'est un fait divers qui est récompensé.
Oui, le FIPA d'or a été remis en effet à un documentaire néerlandais, PK, qui revient sur un drame de 2007, l'histoire d'un jeune de 18 ans qui a battu 8 personnes dans son lycée avant de se suicider. À travers de nombreux témoignages, le documentariste décrit, je cite, le processus d'exclusion, voire de bizutage, propre à cet âge, qui ont fait d'un enfant autrefois joyeux et curieux un bloc de pessimisme solitaire et emmuré. Alors, si j'en crois un article de Sud-Ouest, ce film vous a bouleversé, Didier Decoin. Du côté de Télérama, ce FIPA d'or est une surprise. Nous n'attendions pas sur la plus haute marche ce portrait, non pas que ce film soit sans qualité, mais il souffre, écrit l'hebdomadaire, de la comparaison inévitable avec les remarquables Bowling for Columbine de Michael Moore et Elephant de Gus Van Sant.
Et pour terminer, dans la catégorie série ?
Eh bien, le FIPA d'or de la meilleure série a été attribué samedi dernier à la britannique Happy Valley. Et comme l'écrit le bien nommé Pierre Langlais, spécialiste série à Télérama, il ne faut pas se fier au titre de cette série efficace. Son décor n'est pas une joyeuse vallée, écrit-il, mais une ville grisâtre, rongée par le chômage, un coin sans horizon où Catherine Cowood, flic solitaire, quinca en deuil, tente de faire respecter l'ordre Happy Valley, série de la BBC One, sera diffusée d'ici la fin de l'année 2015 sur Canal+.
I'm Catherine, by the way. I'm 47. I'm divorced. I live with my sister, who's a recovering heroin addict. I've two grown-up children, one dead, one who doesn't speak to me, and a grandson.
Talking speed bumps, city, where the only thing that's pretty is the thought of getting out.
Original British drama, Happy Valley, on BBC One.
Didier Decoin, peut-être des commentaires sur cette édition du FIPA et sur les résultats ?
Ah ben c'est un FIPA qui a très bien marché et qui a explosé tous les records de fréquentation qu'on avait déjà. Et surtout, je trouve que la sélection, qui était un peu exigeante, a parfaitement fonctionné sur le public. Alors, il y a des films dont on n'a pas parlé ou qui n'ont pas été primés. Il y en a un qui est un film qui va passer sur Arte, qui est un film policier, qui s'appelle En immersion. Philippe Haïm en est le réalisateur et le scénariste. Je dois dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un ovni. Parce qu'on n'a jamais fait ça.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ?
C'est d'une extraordinaire violence, d'une extraordinaire humanité, d'un extraordinaire désespoir, et ô merveille, c'est en noir et blanc. C'est sensationnel. Je dis vraiment, c'est sensationnel. Donc, je crois qu'on va le voir je sais pas quand Arte essaie de le... Mais c'est vraiment un truc formidable.
Est-ce que vous avez vu des évolutions dans ce qui est présenté, dans ce qui a été présenté cette année au FIPA ?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour à, j'allais dire, à la chabrolisation, c'est-à-dire aux petites villes, aux petits univers très, très humains, très, très chaleureux, où on a l'impression que tous les gens se... Je vais vous donner un exemple, Broadchurch. Hein, Broadchurch, c'est l'archétype. On a l'impression qu'on a pas des décalcomanies de Broadchurch, mais que tout le monde va dans cette direction-là. Petite ville, très joli décor naturel. On se dit qu'est-ce qu'on serait bien pour passer ces vacances-là ou pour faire un bébé. Et puis, tout d'un coup, arrive la tragédie. Et chez moi, l'irruption comme ça de la tragédie dans le quotidien, je trouve que c'est un truc formidable. C'est très, ça va vachement bien avec le film policier.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau détective avec vous, Didier Decoin, écrivain, scénariste, prix Goncourt en 77 pour John Lanfer, secrétaire général de cette académie Goncourt depuis 95, et vous signez votre dictionnaire amoureux des faits divers chez Plon. Il y avait déjà eu un dictionnaire amoureux de la Bible en 2009. Alors a priori, c'est le grand écart, mais en quoi ces deux entrées, la Bible et les faits divers, vous définissent, vous, Didier Decoin ?
Eh bien, la Bible, tout simplement parce que j'ai le privilège ou le vice, je ne sais pas comment on peut dire, d'être croyant, de penser qu'il y a quelque chose après le mur du cimetière. Et puis, les faits divers, parce que j'ai baigné dedans quand j'étais petit. Mon père, qui était cinéaste, s'inspirait beaucoup.
Henri Decoin.
Voilà, des faits divers. Les vérités
sur Bébé d'Onge, c'était lui.
Rasia sur la Schnouf. Entre 11h et minuit. Maléfice, d'après Boileau, Narcejac. Fait des tas de films... Alors, il adorait le scope noir et blanc. Et alors, il allait chercher son inspiration. Et surtout, il cherchait à être exact. Il prenait pas toujours de conseillers techniques. Donc, il lisait. On avait une collection de séries noires. Vous savez, la collection, il y avait un petit éléphant. Il y a des trucs absolument formidables. Et alors, papa me les laissait lire. Donc, moi, j'ai vraiment... Je me rappelle, j'avais 7 ans, 8 ans. Je baignais dans cet univers de la série noire. Et puis, les journaux. On était abonnés à je ne sais combien de journaux, dont le magique France Soir, avec sa page des faits divers, avec Le crime ne paie pas. Et ça aussi, on me le laissait lire. Alors, je ne comprenais pas tout. Alors, des fois, j'allais demander à papa ou à maman, mais ça veut dire quoi, ça, etc. Il m'expliquait. Et j'étais fasciné parce que c'était beaucoup plus extraordinaire que Mickey, Tintin, Spirou, parce que c'était vrai. Voilà, c'était vrai. Et bon, j'adorais. Plus, n'oublions pas, tous les jeudis, j'allais au cinéma voir évidemment des films américains, parce que papa adorait ça, et c'était presque toujours, quand c'était pas western, c'était des polars. Donc, je suis un enfant du fait divers.
Est-ce qu'il y avait un fait divers à l'époque qui vous a marqué d'ailleurs, et qui pourrait être, non pas à l'origine de ce dictionnaire amoureux, mais qui est d'ailleurs dedans ?
Il y en a surtout un qui, oui, c'est venu après, mais il y en a un qui a donné naissance à un livre, le roman précédent qui s'appelait La pendue de Londres, qui est l'histoire de Ruth Ellis, la dernière femme à être pendue en Angleterre. Et c'était, là, j'étais vraiment petit quand c'est arrivé, j'avais 10 ans. Et je me revois à quatre pattes, regardant dans France Soir le schéma de sa cellule et l'accès à la chambre d'exécution qui était tout à côté. Et il y avait ce qu'elle allait prendre pour son petit déjeuner. Comment ça allait se passer ? ça m'avait, j'avais jamais entendu parler vraiment de peine de mort. Enfin, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et ça, ça m'avait bouleversé et ça m'a tenu jusqu'à ce que pouvoir faire ce livre sur Ruth Ellis. Mais dans le dictionnaire amoureux, ce sont des ambiances beaucoup qui reviennent, qui me reviennent de mes jeunes années. Et puis, je parle de gens, de dessinateurs, je parle de Paul Gordeau, l'auteur des Crimes de Pépa. Et puis des anecdotes sur plein de petits faits divers géniaux.
Stéphane Bourgoin, vous vouliez réagir ?
Oui, tout à fait. Hein. Je pensais justement à Paul Gordeau, puis aux couvertures de Détective et de Nouveau Détective, avec mon grand ami Angelo Di Marco, qui a maintenant son propre musée à Troyes, hein, et dont Didier Decoin parle d'ailleurs dans son ouvrage.
Avec une admiration infinie, parce qu'il avait trouvé un truc, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais il faut regarder. Alors, on voit toujours le tueur et la victime. De préférence, la victime est une très jolie fille.
Au premier plan. Échevelée.
C'est même un gros plan. La caméra s'approche. Les crayons s'approchent de très près. Et alors, son astuce, c'était de ne jamais montrer le couteau pénétrant dans la poitrine, dans le sein virginal et peureux, mais de montrer la pointe du couteau touchant l'épiderme de la victime. Alors, le lecteur, contemplateur, voyeur, etc., regardant ça, disait, oh, la pauvre chérie, quand ça va entrer, qu'est-ce que ça va lui faire mal? Et c'était génial, il avait inventé cette chose qui ne peut pas exister, qui s'appelle le suspense en dessin. Comment voulez-vous rendre le suspense avec un dessin? C'est pas possible, parce que c'est immédiat, c'est global un dessin. Lui, il avait trouvé ce truc-là. Et chaque couverture qu'il a faite, c'était toujours le même système. C'est un génie, cet homme.
Vous le connaissez très bien?
Ah, très, très bien. J'ai assisté aussi à des concerts, puisque c'est un excellent clarinettiste. Hein. Et c'est vraiment très cinématographique, hein, ce qu'il fait. C'est proprement stupéfiant.
Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Hein. Est-ce qu'il ne s'est jamais lassé de faire ça? À chaque fois, c'était neuf, il repartait avec enthousiasme?
Ah oui.
Il en a fait des milliers.
Oui, il a même accepté de faire la couverture d'un de mes livres il y a quelques années de cela. Et c'était ma plus grande fierté d'avoir un dessin original d'Angelo Di Marco. Parce que dans son ultra-réalisme, il y a aussi un petit côté totalement fantasmatique et fantastique. Hein. C'est tellement réaliste que ça part au-delà même du réalisme.
Tout à fait, c'est très vrai.
Benoît Lagan.
Alors, vous liez dans votre dictionnaire, Didier Decoin, les faits divers au, je vous cite, « petit peuple parce que les grands, les puissants se réservent le fait historique ». Qu'entendez-vous par cette distinction?
Ben, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où un fait divers devient... Je vais prendre un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Une corbeille à papier, un bordereau dans la corbeille à papier. Quelqu'un prend la corbeille à papier, sort le bordereau, le montre, on dit « tiens, c'est curieux, est-ce qu'on n'aurait pas un traître à l'état-major ?» C'est l'affaire Dreyfus qui commence. C'est encore un fait divers. Mais quand elle va monter en puissance, elle va devenir non plus du tout un fait divers, mais devenir une affaire d'État. Et là, il y a une ligne de partage, et puis on ne peut pas rebrousser chemin. Et moi, je trouve qu'il y a une espèce de noblesse dans le fait divers qui disparaît souvent dans le fait historique, parce que là, ça devient souvent très, très glauque et même parfois répugnant. Vous me direz que le fait divers, c'est pas toujours très propre, mais... Le fait divers repose souvent sur l'amour, des choses comme ça. C'est que le fait historique, on voit des puissants. Il suffit de relire les tragédies. Alors regardez le pire des ce qui n'est plus un fait divers, qui est un fait. C'est Agamemnon sacrifiant la pauvre petite Iphigénie pour avoir des vents favorables. C'est pas possible qu'un papa fasse ça à sa fille. Ça m'a toujours révolté profondément, moi, cette histoire. Et ben ça, c'est pas un fait divers. C'est un fait historique. Vous voyez. Il est odieux.
Page 313, en ouverture du segment à la lettre F, votre première occurrence est naturellement fait divers. Et dans cet article, vous évoquez la définition de Pierre Larousse selon laquelle l'effet divers échappe à toute classification et n'a aucun point commun. Mais vous écrivez plus loin que c'est Michel Foucault qui en donne une définition la plus juste et la plus limpide. Le fait divers est un échangeur entre le familier et le remarquable. Vous, quelle serait votre définition ? Vous y avez pensé certainement depuis l'écriture de ce dictionnaire, Didier Decoin.
Mais je reprendrai exactement celle de Foucault, parce que je la trouve elle est tout à fait géniale. C'est toujours des univers familiers au départ, un fait divers.
Vous pensez à quoi, par exemple, qui pourrait illustrer
cette définition? Je pense à Violette Nozière, par exemple. Violette Nozière, c'est un univers un peu sordide, mais ce sont des gens pas très intéressants, mais pas monstrueux non plus. Mais ça va se révéler tout d'un coup, un truc non seulement remarquable, mais mais épouvantable. C'est ce moment, le fait divers, l'image est très laide que je vais dire, mais elle dit bien que c'est un furoncle. Au départ, c'est rien du tout. C'est un petit bouton, c'est un gamin qui se tripote d'un bouton d'acné et ça va finir par prendre des proportions épouvantables qui peut aller jusqu'à la défiguration. Et c'est ça qui me paraît intéressant dans le fait divers, c'est de montrer comment ça abîme un terrain qui est un terrain le terrain du familier.
Stéphane Bourgoin, je sais que vous avez eu le dictionnaire entre les mains. Est-ce qu'il y a un fait divers ou une entrée dans le dictionnaire qui vous a plus particulièrement marqué ?
Ah oui, j'adore celle du prisonnier, je crois qu'il s'appelle Kogut, dans la prison de San Quentin, qui se fait donner des jeux de cartes. Et je vous laisse continuer parce que c'est, faut peut-être pas révéler la chute.
Ah, quoique.
Oui, il faut la révéler.
Qui fait dans chauffer les jeux
alors,
de cartes.
Alors, il y a 800 pages.
Ouais. Et c'est quoi cette histoire?
Mais ce type est un tueur de vieilles dames, donc c'est pas un gars très sympathique. Donc il a son procès, il est condamné à mort et on l'envoie à Saint-Quentin, à chambre à gaz. Et quand on le met dans le couloir de la mort, il dit, vous savez, de toute façon, c'est pas vous qui allez me tuer, hein, c'est moi, je mourrai quand je l'aurai décidé, je vais me suicider. Éclat de rire du directeur et des gardiens, mon cher, chez nous, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais, on vous a à l'œil. Bon. Il se tient tranquille. Au bout de 3-4 mois, il dit, ah, ce que je m'ennuie. Est-ce que vous ne pourriez pas me donner un jeu de cartes? Je ne pourrais rien faire de mal avec un jeu de cartes. Je ferai des réussites, des patiences. Alors on lui apporte un jeu de cartes. Et là, on le voit effectivement derrière les barreaux. Il aligne ses cartes, il fait ses patiences, jour et nuit. Et puis, 3 ou 4 mois se passent encore, il dit, c'est lassant avec un seul jeu de cartes. J'aimerais bien compliquer un petit peu les choses. Je préfère 2 jeux de cartes. On lui donne un deuxième jeu de cartes. Et puis, il recommence à faire ses patiences. 3-4 mois se passent. Et puis, il appelle le gardien, il dit, écoutez, il m'arrive une chose épouvantable. J'ai perdu le roi de pique et l'as de trèfle. Je peux plus faire mes patiences. Parce que je pourrais pas avoir 1 ou 2 jeux. Donnez-moi 3 ou 4 comme ça. Bref, il va accumuler dans sa cellule des jeux de cartes. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il en fait? Eh ben, c'est très simple.
Les bouffes.
Il sort toutes les cartes rouges. Les cœurs et les carreaux. Et il gratouille l'encre rouge, qui devient une sorte de poudre, qui réserve, comme on dit en cuisine, réservez votre encre rouge. Donc cette petite poudre rouge, il la met de côté. Quand elle est de côté, il démonte l'un des montants de sa bannette, de sa couchette, qui est un tube. Il bouche l'une des extrémités du tube. Il verse dans le tube la poudre d'encre rouge qu'il avait réservée. Il met un petit peu d'eau, il touille. C'est mignon, c'est joli, ça fait, on dirait du sang, ça lui va bien, lui qui est un tueur. Et il met la partie encore ouverte du tube contre sa tempe et la partie qu'il a bouchée, fermée, contre le radiateur de sa cellule et il attend. Et au bout de 2 ou 3 heures, une explosion monstrueuse ébranle les murs de Saint-Quentin, qui sont pourtant assez solides. Et on se précipite et le gars, il est complètement pulvérisé. Il y a de la cervelle collée absolument partout. Parce qu'il savait, le coquin, que l'encre... Alors, je parle de l'encre des cartes américaines. N'essayez pas de faire ça chez vous. Hein, que l'encre des cartes américaines est à cette époque considérée et réagissait avec l'eau et la chaleur et devenait un explosif absolument énorme.
C'est génial.
Et les gens se sont dit, quel dommage, on a eu tort de le condamner à mort. Ce type est un cerveau. Enfin, il n'en avait plus de cerveau.
J'étais sûr qu'il y avait une fin dans ce domaine-là.
Ça aurait été dommage de ne pas donner la chute, quand même.
Oui, c'était parfait. Benoît.
Votre dictionnaire Didier Lecoing est largement nourri d'entrées littéraires. Colette, Emma Bovary, Charles Dickens. Quelles sont, selon vous, les principales passerelles qui existent entre les faits divers et la littérature?
Parce que le fait divers, c'est les graines qu'on jette aux poules. Hein, elle se précipite dessus. Enlevez les faits divers, vous allez voir le nombre de livres, de films, d'opéras. Carmen, c'est un fait divers, Carmen. Tosca, c'est un fait divers. Qui vont disparaître. Le fait divers, c'est la nourriture de l'auteur, la nourriture de base. Et donc, moi, je me suis passionné de voir que des grands auteurs respectables, regardez Madame Colette, par exemple, avec ses frises, ses petites boucles, écrivant sur du papier bleu, la chérie, habitant au Palais Royal. Très, très comme ça, Madame Colette.
Trop comme ça, elle montrait quand même ses seins dans des...
Oui, mais ça, c'était le côté secret. C'est la vagabonde, ça, avant. Mais c'est aussi l'auteur de Claudine, c'est ça.
Mais Claudine, c'était quand même un personnage assez sulfureux quand même pour l'époque.
Oui, quand on sait lire, mais tout le monde ne sait pas lire.
En tout cas,
mon cher Laurent, elle a été la présidente de l'Académie Goncourt, ce qui lui donne tout de même une sorte de respectabilité, du moins c'est ce que je croyais, et je me suis aperçu qu'elle adorait aller flairer l'odeur du sang. Alors elle a écrit 1200 articles, tous consacrés à des faits divers. Elle a couvert le procès Landru. Elle a couvert l'exécution de Weidmann. Elle a assisté à l'arrestation et à l'exécution, on peut pas parler autrement, de Bono, le héros de la bande à Bono. Elle était au premier rang. Ça me fait rire de penser que Madame Colette et Madame au papier bleu se soient comme ça passionnées pour ces faits divers. Maupassant était un fou de faits divers. Dickens aussi, Hugo aussi, et moi aussi. Toute proportion gardée.
Stéphane Bourgoin, vous vouliez intervenir ?
Oui, à cette époque-là, y a aussi Albert Londres, Simenon, sous le pseudo de Sim, et puis d'autres qui se déguisent sous différents pseudonymes, à la fois dans Détective qui est publié à
Cocteau
l'époque
va écrire dans Détective,
Gallimard.
Emmanuel Beau va écrire dans Détective, mais Philippe Jean écrira dans Détective, moi-même j'ai écrit dans Détective.
Moi aussi, voilà. Dans Qui Police, il y a eu aussi des grandes signatures sous pseudonyme. Dans Police
Kessel, là aussi, je crois, Joseph Kessel, là, dans Détective. Et puis il y a Truman Capote, le pape des écrivains policiers.
Didier Decoin, chaque soir depuis le début de cette saison, on demande à nos invités de nous proposer un son qui les a marqués, et voici ce que vous avez choisi. Identification de ce son et sa signification pour vous, Didier Decoin.
L'identification, c'est naturellement Léo the Lion, le lion de la Metro-Goldwyn-Mayer. Qui est mort il y a 15-20 ans. J'étais en deuil de Léo. Pour moi, c'est très important parce que c'est le cinéma. Ce lion, c'est le film américain. C'est tout ce que j'ai adoré, que je continue d'adorer au cinéma. Ces films qu'on disait un peu faciles. Ça dit, il y a eu des très très grands films sous l'égide de la MGM. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi plein de polars comme ça que j'ai adoré. Et c'est tous mes jeudis. Car quand c'était pas Leo the Lion, c'était la 20th Century Fox ou Paramount, mais c'était très très souvent ce lion. Et j'ai toujours pensé que mon père, que j'adorais,
Henri Decoin,
Henri Decoin, avait quelque chose de ce lion. Il avait une nuque très avec des frizzlis de cheveux qui me faisaient penser à cette crinière qu'on les. C'était beaucoup plus joli chez papa que chez les lions, mais ça me faisait penser un petit peu à cette crinière qu'ont les lions. Il avait un côté très puissant, très très installé sur la terre. Comme ça. Et quand il jouait avec moi, quand j'étais plus ou moins bébé et qu'il se mettait à quatre pattes, c'était vraiment un lion. En plus, il avait le courage, la générosité et la faim des lions. Donc voilà, c'est un peu ma petite Madeleine de Proust, le cri de Leo the Lion.
Pour moi, Madeleine de Proust, c'est vous, parce que vous aviez signé un film qui m'avait terrorisé quand j'étais enfant, qui est Icomica. Vous avez signé le scénario.
Oui. Ça vous avait terrorisé ?
Oui.
Je pense que c'est une très très belle expérience que j'ai eue avec Henri Verneuil, qui en était l'inventeur, si je puis dire. Ce qui avait fasciné Verneuil, c'était quand il avait découvert l'expérience du professeur Milgram, qui est le cœur battant du film et qui explique beaucoup de choses. C'est en gros l'assassinat de Kennedy raconté. Avec Yves Montand. Et moi, ça a été une leçon parce que j'étais déjà scénariste. Et je venais d'avoir le Goncourt et Verneuil avait décidé qu'il avait envie de travailler avec moi. Donc on a travaillé pendant 6 ou 7 mois. J'allais tous les jours chez lui à Neuilly. On écrivait ensemble, etc. Puis un jour, ça a été terminé. Le scénario était fini. Champagne pour tout le monde. Il avait fait venir des petits fous, etc. Après 7 mois, j'en pouvais plus. J'étais heureux et je suis content. Et ah oui, c'est vraiment, tu sais, c'est un très bon scénario que nous avons. C'est un très bon scénario. Allez, on trinque, Didier. Et je dis, écoute, je vois qu'il est l'heure, je vais rentrer chez moi. Il dit, d'accord, me dit-il, à demain. Je dis, pourquoi à demain? On recommence. Mais je dis, attends, je te suis pas, Henri. On vient de le terminer, le scénario. Tu dis qu'il est bien. Ah oui, mais il peut être mieux. Et on a recommencé 6 mois de travail pour faire une deuxième mouture qui est celle que vous avez vue à l'écran. Et ça, respect.
Le rendez-vous. La chronique.
La chronique du vendredi de Xavier Delaporte, rédacteur en chef de Rue 89, puisque c'était une chronique en partenariat Place de la Toile. Le sujet ?
Bonsoir. Eh bien.
Bonsoir.
Le sujet, on va parler de politesse.
Ah bah oui, en effet, ça me concerne.
Alors, il y a de ça quelques jours, un de mes compagnons de travail est arrivé un matin avec une question qui avait l'air de le préoccuper grandement. Peut-on faire des condoléances via les réseaux sociaux ? C'est-à-dire envoyer un message sur Facebook, sur WhatsApp ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que ça ne fait pas trop désinvolte, trop négligent ? Ne vaut-il pas mieux téléphoner ou envoyer une lettre ? Eh bien, cher Laurent, je trouve ces questions merveilleuses. vraiment merveilleuse. Parce qu'elle prouve au moins une chose, contrairement à ce qu'on croit et ce qu'on dit souvent, la part croissante que prend Internet dans nos vies ne correspond pas forcément à un abaissement des standards de la politesse. Au contraire, bien souvent, ce sont de nouvelles questions de savoir-vivre qui se posent. En même temps, la politesse et la technologie, c'est une très vieille histoire. Souvenons-nous par exemple des problèmes que posèrent les premiers téléphones quand ils firent irruption dans les foyers bourgeois. À quelle heure appeler ? Combien de sonneries laissées dans le vide avant de renoncer à joindre son interlocuteur ? Et comment mettre fin à la conversation ? Des questions qui furent relancées, évidemment, avec le téléphone portable. Je ne fais pas le récit des problèmes de politesse qu'ont posé le téléphone portable. Alors c'est vrai que ces outils ont fait leur apparition rapidement après des siècles d'une communication épistolaire qui était relativement stabilisée, même s'il ne faut pas négliger les problèmes posés déjà par l'irruption de nouveaux canaux de communication, quand par exemple, les gens se mirent à utiliser des cartes de visite. Il fallut inventer tout un code pour leur usage. La carte qu'on laisse corner, vous êtes lecteur de Proust.
Exactement.
Voilà. La carte qu'on laisse corner quand on passe chez un autre absent, oui, d'accord, mais comment la corner ? De nombreux codes donc furent édictés, on cornait un coin pour signifier une chose, un autre coin pour signifier autre chose, et l'on pouvait même couvrir son nom pour en signifier une troisième. Et déjà une question, laisse-t-on une carte pour signifier qu'on est venu annoncer ses condoléances, ou vaut-il mieux revenir plus tard ? En personne. Je me souviens avoir vu cette question posée dans un manuel de savoir-vivre. La communication dite numérique, j'aime beaucoup en fait les manuels.
Parce que c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous avez le temps de lire des manuels de savoir-vivre.
Au détriment d'autre chose, certes,
peut-être.
Mais c'est très important la politesse dans la vie, comme vous devriez le savoir. La communication dite numérique a ajouté de nouveaux problèmes. Doit-on dire bonjour sur Twitter le matin ? Comment mettre fin à un chat sans se montrer impoli ? Peut-on commencer un mail par « bonjour » ? En combien de temps est-il décent de répondre à un mail ? Et puis dans les mails, comment bien gérer la descente de politesse inhérente à ce médium où l'on commence par écrire « chère madame » à 8h40 et on termine par « ok » à 8h46 ? Et certaines de ces questions sont d'une grande complexité. Par exemple, une que j'aime beaucoup, c'est la mention « envoyée depuis mon iPhone » qui s'inscrit automatiquement, si on n'y fait pas attention, sur les mails qui sont envoyés depuis son smartphone. Certains estiment qu'il faut la retirer car elle signifie qu'on a écrit ce mail sans grande concentration et donc qu'on lui accorde peu d'importance. En même temps, cette mention a ses utilités, elle montre qu'on est réactif, ce qui, dans un contexte professionnel, par exemple quand on travaille avec vous, est bien. Ou elle peut excuser les fautes d'orthographe ou de frappe, puisqu'on écrit dans le métro ou dans une situation désagréable. Le plus passionnant dans cette histoire, c'est que ces codes ne sont fixés dans aucun manuel de savoir-vivre. Fut un temps, au début des années 2000, certains édictèrent quelques règles de ce qu'on appelait à l'époque la netiquette, de net plus étiquette, où l'on expliquait par exemple que le second degré est difficile à manipuler car peu lisible à l'écrit, où l'on expliquait encore qu'il fallait éviter les lettres capitales car elles étaient l'équivalent numérique du cri. Mais avec les réseaux sociaux, cette formalisation des échanges a disparu, non pas parce qu'on a cessé de chercher à être poli, mais parce que tout allait trop vite. À chaque application qui naît, à chaque plateforme qui apparaît, correspondent des codes qui sont adoptés sans être formulés en tant que tels et qui par ailleurs évoluent très vite avec les fonctionnalités de la plateforme qui change très régulièrement. Et cette règle vaut pour toutes les plateformes, même 4chan, le forum anonyme trash où des gens souvent jeunes du monde entier se vannent, échangent des contenus porno, discutent de manga ou d'autres choses. Même sur 4chan, il y a des codes. Je rêve donc d'un manuel de savoir-vivre dans les réseaux, d'une sorte de Nadine de Rothschild connectée qui viendrait nous dispenser ses leçons de politesse numérique. Et je sais pas pourquoi je pensais à vous.
Serait-il temps de prendre congé ?
Certes.
Eh bien, à votre service.
Le rendez-vous.
A lot of people ask me if the Black Dahlia murder still haunts me. I tell them no. Then I stop and think. Maybe haunt ain't the right word. But not a day goes by that I don't remember this day. January 15th, 1947.
Plateau Cold Case avec vous, Stéphane Bourgoin, libraire, écrivain, spécialiste des tueurs en série. On vous doit plusieurs ouvrages sur Jack l'Éventreur, mais aussi sur le cannibale de Milwaukee, l'ogre de Santa Cruz, les femmes tueuses, un almanach du crime et des faits divers, et même une enquête mondiale sur les tueurs en série. On vient d'ouvrir le plateau sur un extrait de Who is the Black Dahlia ? C'est un film de Joseph Pevney sorti en 1975, dont vous venez d'acheter les droits. Vous nous disiez off en off.
Tout à fait, hein, pour le sortir, je pense, d'ici 3-4 mois en DVD, avec aussi un certain nombre de documentaires qui vont accompagner la sortie.
car c'est ce film qui est à l'origine de votre fascination pour ce fait divers auquel vous consacrez 500 pages aux éditions du Ring, titre « Qui a tué le Dahlia Noir ?» Tout y est, donc la découverte du corps d'Elizabeth Short, aspirante actrice, coupée en deux et vidée de son sang le 15 janvier 1947 dans un terrain vague de Los Angeles. Il y a l'hypothèse de résolution, les suspects historiques, les rumeurs, la place des médias, les différents profilers. Qu'est-ce que ce film de 75 va déclencher pour vous? Qu'est-ce que vous y voyez?
Bah, moi, à cette époque-là, je suis aussi aux États-Unis parce que je prépare un livre qui est le premier qui a été publié en France sur la série B américaine, qui s'appelle Série B et qui est préfacé par Patrick Brion, Monsieur Cinéma de la 3. Et donc, j'interrogeais des dizaines de réalisateurs sur lesquels, à cette époque-là, aucun livre n'avait encore été écrit. Et justement, j'y préparais une interview de Joseph Pevney, dont c'est un des derniers films, qui a tourné des dizaines de films, des petits films noirs pour la Universal avec Tony Curtis, beaucoup de westerns. Et c'est vraiment cette histoire, ce cold case m'a frappé. Parce que pour moi, c'est le mythe inversé d'Hollywood. Vous savez, ce cliché de la jeune aspirante actrice un peu naïve qui débarque à la gare routière de Los Angeles avec sa valise en carton et qui va réussir, entre guillemets, à devenir immortelle maintenant sous le nom du Dahlia Noir, à tel point qu'on a quelquefois totalement oublié sa vraie identité, Elizabeth Short, et que je me suis rendu compte aussi que beaucoup de personnes pensent que l'affaire du Dahlia Noir, c'est une fiction et que ce crime n'a jamais existé dans la réalité. Or, cette jeune femme a souffert pendant à peu près 48 heures des tortures absolument atroces, humiliations, dégradations, avant d'être totalement lacérée. L'assassin lui a dessiné ce fameux sourire à la Joker, hein, et de la mutiler avant de jeter son corps sur un terrain vague de Los Angeles.
Qu'est-ce que vous avez appris en lisant le livre de Stéphane Bourgoin, Didier Decoin ?
Écoutez, d'abord j'ai appris la vérité. Parce que je trouve que la solution qu'il propose, elle est totalement fiable. Enfin, moi, je le
suis. On va en parler dans quelques instants, ouais.
Et ce que
c'est d'un serial killer,
ouais. Ouais, c'est d'un serial killer. Ce que j'ai appris, c'est la façon dont tout ce qui est l'environnement autour, la façon dont la police a réagi, dont la presse a réagi, etc. Je ne me rendais pas compte à quel point. Je pensais que c'était nous qui avions sacralisé Elizabeth Short et qui en avions fait une icône. Je ne me rendais pas compte qu'à l'époque, déjà, ça a été un tremblement de terre. Et ça m'a fasciné parce que dans le fond, des meurtres horribles, l'Amérique croule dessous. Donc, il s'est passé quelque chose là, une espèce d'alchimie. Et c'est ça que j'ai appris dans son livre.
Stéphane Bourgoin.
L'édition spéciale qui sort le jour même du Los Angeles Herald Examiner, le journal du magnat de la presse Randolph Hearst, c'est Citizen Kane, Orson Welles, qui fait le portrait de Randolph Hearst dans son film. C'est la deuxième meilleure vente de toute l'histoire de la presse américaine devant l'annonce de Pearl Harbor, devant l'annonce de la fin de la Seconde Guerre mondiale ou devant même l'annonce de la bombe d'Hiroshima. Vous vous rendez compte à quel point ce fait divers cristallise l'attention du public, des médias, et les médias vont toujours avoir un pion d'avance sur la police. Voilà pourquoi la police décide de garder un certain nombre de choses secrètes qui est tout à fait inhabituel pour une force de police américaine, notamment ce fameux rapport d'autopsie, parce qu'il y a près de 400 personnes en l'espace d'un an qui avouent être l'assassin du Dahlia Noir.
Manu Farine.
Si la fiction a recouvert un petit peu le fait divers, hein, comme vous l'avez dit, c'est probablement aussi à cause ou grâce à James Ellroy, hein, grâce à son livre paru en 87. Vous remerciez en fin d'ouvrage François Guérif, qui est donc l'éditeur d'Ellroy en France, et Ellroy lui-même. De quel ordre ont été vos rapports pendant cette enquête, si rapport il y a eu ?
Avec James Ellroy, ouais. Moi j'étais très ami avec lui au moment où son tout premier ouvrage sort en France. On était en vacances ensemble en Italie, à Cattolica, pour être précis. Et donc je le connais très bien. François Guérif, j'ai ouvert avec lui une librairie qui est la première librairie spécialisée en polar en France, qui s'appelle Au troisième œil et qui existe toujours à l'heure actuelle. Donc il était normal pour moi de leur rendre hommage. Même si moi, je m'éloigne tout à fait de la fiction, mais en même temps, je traite aussi de toutes les légendes urbaines qui sont attachées et de toutes les hypothèses souvent très farfelues qui vont faire que des personnes vont accuser, par exemple, Man Ray, John Huston, Orson Welles ou le chanteur de folk Woody Guthrie d'être l'assassin du Dahlia Noir. Mais il fallait évacuer toutes ces rumeurs, toutes ces légendes urbaines et de revenir à la réalité des faits et notamment à ce fameux rapport d'autopsie qui me montre la préparation, la cristallisation des fantasmes de cet assassin. Le crime n'est pas commis sous l'emprise de la colère, il est extrêmement réfléchi, prémédité et fantasmé. Donc pour moi, il était évident que l'assassin n'en était pas à son premier crime.
Et d'où l'hypothèse d'un serial killer.
Voilà. Et cette hypothèse, je la fais valider par des amis profilers du FBI qui me donnent aussi une tranche d'âge potentiel de l'assassin du Dahlia Noir. Et à partir de là, ça paraît très simple à dire, c'est 15 années de travail, parce que comme l'assassin a probablement entre 40 et 50 ans, au moment de ce crime de 1947, je décide de rassembler tous les dossiers sur tous les cold cases, donc crimes non résolus, aux États-Unis entre 1925 et 1950. Je reproduis d'ailleurs un certain nombre de tableaux que j'ai fait, 4 tableaux. J'ai fait 5000 tableaux similaires sur pas loin de 20 000 cold cases. Et à partir de là, j'ai cherché des rituels, des modes opératoires, cette fameuse signature psychologique que l'on retrouve, et notamment le fait que l'assassin vide entièrement du sang sa victime et la lave complètement à l'eau. C'est quelque chose d'extrêmement rare dans les affaires criminelles et ça me permet de rétrécir mon champ et de me focaliser sur à peu près 5 autres affaires. 3 crimes uniques et 2 affaires de meurtre en série, dont une, la fameuse affaire du boucher de Cleveland, sur laquelle s'est cassé les dents le fameux incorruptible Elliot Ness.
Manu. Vous l'avez dit, Stéphane Bourgoin, il y a eu des centaines d'hypothèses, hein, y compris les hypothèses les plus farfelues, dont celle de Steve O'Dell, qui était donc ancien chef des inspecteurs de Los Angeles, qui lui maintient que l'assassin du Dahlia Noir, c'est son propre père, le docteur George Hill O'Dell, et une hypothèse qui avait été validée dans un premier temps par Elroy avant qu'il ne se rétracte. Qu'est-ce qui, pour vous, ne fonctionnait pas dans cette hypothèse-là ?
Visiblement, George O'Dell était, disons-le crûment, un salopard. Hein. Il a probablement violé la demi-sœur de Steve O'Dell. C'était quelqu'un d'assez odieux. Donc, je pense que Steve O'Dell avait un certain nombre de comptes à régler avec son père. Voilà pourquoi le chapitre où je parle de ces hypothèses, je l'intitule de manière un peu ironique, c'est papa qui l'a fait, et moi je dis dès ma préface que je n'accuserai pas mon propre père d'avoir commis les crimes du Dahlia Noir. C'est une constante, on a à peu près 4-5 auteurs qui ont accusé leur propre paternel d'être l'assassin du Dahlia Noir, et le mois dernier encore, il y a quelqu'un qui a accusé son père d'être à la fois l'assassin du Dahlia Noir et d'être le tueur du Zodiac, ce que fait aussi Steve O'Dell. Alors que le tueur du Zodiac, pour tous ceux qui ont vu le film de David Fincher, c'est quelqu'un qui tue à distance avec une arme à feu. Ça n'a absolument rien à voir avec le rituel du Dahlia Noir. Et en plus, il accuse son père d'avoir commis d'autres crimes, mais manque de chance. Par exemple, 2 de ces crimes sont commis à 600 km de distance en l'espace de 2 heures. Ce qui paraît tout à fait improbable. Il accuse son père aussi d'avoir piétiné à mort une victime, une autre victime, Jeanne French, en 1947. Mais lorsqu'on examine le rapport d'autopsie du meurtre de Jeanne French, on se rend compte que l'empreinte de pied ne correspond, mais absolument pas du tout, à la taille des chaussures du père de Steve O'Dell. Donc je pourrais multiplier à l'infini tout ce qui ne colle pas, C'est pas pour dénigrer. Moi, je prétends pas avoir résolu de manière définitive cette enquête, parce que il n'y aura jamais de preuve scientifique absolue, vu que l'assassin a été incinéré et qu'il y a donc pas de possibilité d'exhumation. Mais disons que les profilers du FBI, à qui j'ai soumis mon hypothèse et l'identification de ce tueur, que j'accuse de 20 autres meurtres, m'ont dit « tu as très certainement raison et tu as très probablement identifié l'assassin du Dahlia noir ».
Ce travail sur les serial killers, Stéphane Bourgoin, vous le menez depuis 1978, puisque c'est l'année où tout a basculé pour vous à Los Angeles. Votre petit ami a été assassiné par un homme dont l'enquête va révéler qu'il était un tueur en série. Et c'est cet événement qui va vous pousser à essayer de comprendre ce tueur. Le premier serial killer rencontré en 79, plus tard, c'était qui et pourquoi lui ?
C'était Richard Chase, surnommé le vampire de Sacramento. Et là aussi, tout à l'heure, Didier Decoin parlait des faits divers qui inspirent les romanciers. Ça a inspiré Maurice Dantec pour son roman de la série noire, Les Racines du Mal, hein, qui m'avait demandé l'autorisation d'utiliser l'interview que j'avais publiée avec ce tueur dans mon bouquin Serial Killer, Enquête mondiale sur les tueurs en série, qui fait maintenant dans sa version que j'espère définitive, 1104 pages. Tout simplement parce que j'ai eu la possibilité de le rencontrer et je dois dire que c'est un entretien qui était très difficile parce qu'il était psychotique alors que les tueurs en série sont plutôt jugés responsables de leurs actes et sont des psychopathes. Lui restait quelquefois 10 minutes à me regarder droit dans les yeux sans parler. Et à la fin de l'entretien, il m'explique qu'il va finir par se suicider et qu'il reviendra par la suite se venger sous la forme d'un vampire de tous ceux qui lui ont causé du mal. Bon, à ce jour, il n'est pas encore revenu, fort heureusement.
Manu Farine.
Qu'est-ce que c'est, disons, quasiment 40 années d'études autour des serial killers, vous auront appris sur vous-même, hein, Stéphane Bourgoin ?
Sur moi-même, au départ, quand je veux les rencontrer, c'est parce que le meurtre de ma compagne à Los Angeles me paraît un acte insensé. En tant que partie civile, j'ai eu accès aux aveux et ça me semble être un crime totalement gratuit. Nous sommes en 1978, faut pas oublier, il n'y a pas ces fameux profilers du FBI, le mot serial killer n'existe pas encore, il n'y a aucun ouvrage sur le sujet. Donc je décide, en fait, petit à petit, l'idée me vient qu'il faut que moi-même, je tente de mettre une explication sur ce crime. Et je me dis que la meilleure façon d'y parvenir, c'est d'aller à la source, peut-être comme une certaine forme d'exorcisme ou de catharsis. Alors maintenant, j'avoue aussi que je suis passionné par ce que je fais, mais attention, pas du tout fasciné. Hein. Passionné parce que dans le cas des tueurs en série, l'assassin et sa victime ne se connaissent pas. Et donc, pour comprendre comment le tueur va agir avant, pendant et après le crime, la seule façon d'y parvenir, c'est de les interroger. Et ces connaissances ont permis l'élaboration de l'outil psychologique, ces fameux profilers. En France, on dit des analystes comportementaux. Il y a une unité au sein de la gendarmerie nationale qui s'appelle le département des sciences du comportement. Et moi-même, j'ai travaillé près de 15 ans à la demande de la gendarmerie nationale pour former leurs officiers à tout ce qui était analyse de scènes de crime, psychologie particulière des tueurs en série et techniques d'interrogatoire.
Est-ce que vous diriez qu'il y a une connotation sexuelle dans 90% des cas chez les tueurs en série ?
Au cinéma et dans la fiction, oui.
Mais dans le vrai.
Dans la réalité, il y a évidemment très souvent des pulsions sexuelles, mais eux-mêmes me disent que ce qui importe pour eux, c'est le désir de toute puissance, de devenir l'égal de Dieu, de décider de la vie ou de la mort de leurs victimes, de les chosifier et de les dépersonnaliser. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas avoir de remords, parce que pour eux, tuer, violer, mutiler, c'est comme se débarrasser pour nous d'un Kleenex usagé.
Dernière question pour vous, ou plutôt une dernière intervention. On vous a demandé, comme a dit Didier Decoin, de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi, et je crois comprendre pourquoi. Stéphane Bourgoin, quel est ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi ?
Alors, pour deux raisons. D'abord, quand j'écris, je le fais de manière obsessionnelle. Par exemple, le Dahlia Noir, ça a été pendant 2 mois d'écriture, 15 ans de recherche, mais 2 mois d'écriture sans quitter mon domicile pendant ces 2 mois, de 5h du matin à 23h, et toujours avec une musique obsessionnelle. Donc, du Philip Glass que j'ai choisi. Et c'est... aussi parce que c'est un documentaire, le dossier Adams, dont la diffusion a permis d'innocenter quelqu'un qui était accusé d'un crime. Et ça a été la première fois avant Damien Eccles, l'affaire des West Memphis 3, où quelqu'un condamné à la peine de mort a été innocenté grâce au cinéma et à la puissance des images.
C'est d'une extraordinaire violence, d'une extraordinaire humanité, d'un extraordinaire désespoir, et ô merveille, c'est en noir et blanc.
Pour moi, c'est le mythe inversé d'Hollywood.
Merci à nos invités. Didier Decoin, dictionnaire amoureux des faits divers apparu aux éditions Plon. Stéphane Bourgoin, qui a tué le Dahlia Noir, c'est disponible aux éditions Ring. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Oh, les idiots, mais les idiots! Ils n'ont pas su protéger Platon.
Demain, il faudra attendre lundi. Et lundi, ce sera une émission théâtre russe avec le metteur en scène Rodolphe Danal. À des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Benoît Lagan, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote. Journal de la culture et le supplément week-end, Zoé Sfez et Benoît Lagan. Chronique, Xavier Delaporte. À la prise de son, Dofar Guérid. Et à la réalisation, Thomas Beau.
Il est 19h54. Vous êtes bien sur France Culture. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée et bon week-end à tous.